Mieux vaut tard que jamais.
Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais.
Mieux vaut tard que jamais.
Mesdames, Messieurs, bonjour. Pendant une petite heure, vous écoutez Mieux vaut tard que jamais sur CFM Radio, une émission débat aujourd'hui autour du port du masque dans les écoles. Un port du masque qui est obligatoire dès l'âge de 6 ans, depuis le mois de novembre dernier. Et cette décision, parmi d'autres, a choqué, scandalisé et mobilisé de nombreux parents partout en France qui ont protesté, manifesté et dénoncé cette mesure pour plusieurs raisons. Et notre territoire n'est pas en reste. Souvenez-vous notamment des rassemblements à Albi ces derniers mois. Le dernier en date, c'était le 13 mars ou encore le 20 mars, pas très loin d'ici, à Quélus dans le Tarn et Garonne, où le collectif des masques en lait s'est réuni pour protester contre cette mesure-là en particulier. À l'origine des échanges que nous allons avoir aujourd'hui, un collectif, je dirais, informel de parents qui ont souhaité présenter leur point de vue, leurs arguments contre ce port imposé du masque dès le CP. C'est avec plaisir que je les accueille ici aujourd'hui, que je les reçois en studio avec nous, car c'est aussi et presque essentiellement ça, le rôle d'un média tel que le nôtre, qui est en somme le vôtre finalement de média. Et avant de vous présenter les protagonistes et intervenants du jour, j'aimerais particulièrement remercier Sylvain et Julien qui se reconnaîtront parmi l'audience, car c'est grâce à leur boulot bénévole que vous entendrez des enfants s'exprimer et donner leur ressenti sur divers sujets relatifs au masque dans les écoles. Comment est-ce qu'ils le portent? Comment est-ce qu'ils le supportent? L'appréhendent ou pas? Qu'est-ce que cela change dans leur quotidien, leur apprentissage ou, j'oserais même dire, leur éducation? Aujourd'hui, ce sont des extraits que nous entendrons et prochainement, l'entièreté de ces paroles d'enfants sera diffusée sur les ondes de CFM Radio. Aujourd'hui, en studio, avec nous, deux mamans d'enfants scolarisés qui ne sont qu'un échantillon du collectif de parents dont je parlais tantôt, Alexandra et Stéphanie. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Et puis également avec nous, Gilles Fermand, qui est membre de la Fédération des parents unis du Tarn. Bonjour Gilles. Nous aurons l'occasion, Gilles, sous peu, de parler brièvement de cette association pour en saisir non seulement les missions, les objectifs et puis aussi les actions que vous portez ici dans le département du Tarn. Et toujours en studio avec nous, Julie Maillande, qui est psychologue pour enfants et adolescents à Cordes-sur-Ciel. Bonjour Julie.
Bonjour Jacques.
Et avec nous par téléphone un peu plus tard, Bérangère Basset, qui est professeure de collège et membre du syndicat Sud Éducation Tarn. Première question pour Alexandra ou Stéphanie, car vous êtes un peu à l'origine du rendez-vous que nous avons ici aujourd'hui. C'est une thématique sensible dont nous allons parler, que ce port du masque. Selon vous, le bien-être des enfants ne prime pas dans cette décision, en particulier du gouvernement. Vous nous expliquez pourquoi, quels sont vos arguments, Stéphanie?
Alors, en effet, donc il est important de dire que tout ce que vivent actuellement les enfants depuis près d'un an maintenant, est complètement, à mon sens, en opposition avec les droits fondamentaux des enfants. C'est vrai que quand on reprend, que ce soit donc la Déclaration des droits de l'enfant de 59 ou la Convention des droits de l'enfant de 89, ou qui pose vraiment la définition de l'intérêt supérieur de l'enfant, on voit bien que cet intérêt donc supérieur de l'enfant, qui est défini par Mérieux comme le fait de considérer l'enfant du point de vue de celui qui doit être un sujet au terme de son éducation, un sujet, donc là on l'entend, un sujet physique équilibré, c'est-à-dire que là on parle de la santé, de l'alimentation, etc. Un sujet également psychique, c'est-à-dire équilibré de manière psychiquement, au niveau de sa pensée, et également donc un sujet social et culturel, donc quelqu'un qui est capable de comprendre, de parler. Et enfin, donc, un sujet citoyen. Donc, le citoyen, au sens ici, d'être capable de participer à la délibération du bien commun dans une démocratie. Et si on analyse vraiment, en tout cas, tous les retours qu'on peut voir des médecins, des pédiatres, des orthophonistes, des psychologues sur la question du masque et en tout cas, l'intégralité des mesures sanitaires qui sont demandées aujourd'hui dans l'enceinte des établissements de nos enfants, on se rend bien compte que, tous ces points, sur tous ces points, il y a un impact. un impact fort qui vient remettre en question donc la question concrète, hein, puisque ce terme là d'intérêt supérieur de l'enfant, il a été introduit quand on a posé les bases de la bientraitance et de la maltraitance des enfants, à savoir dans la protection de l'enfance. Et c'est vrai que c'est important d'y revenir parce qu'on se rend compte que tous ces droits là en fait sont bafoués aujourd'hui et que on ne les interroge plus aujourd'hui dans l'école. On continue avec ces mesures sans interroger les conséquences. Voilà, donc c'est vrai que pour nous, ça revêt une importance fondamentale.
Oui, mais c'est peut-être aussi parce que lorsqu'on se plonge dans les différents témoignages de spécialistes, qu'ils soient pédopsychiatres, mais il y a à boire et à manger. Il y en a qui disent, ah ben non, ça cause aucun problème pour les enfants. Et c'est souvent eux, d'ailleurs, que l'on entend dans les médias. C'est un peu comme la chloroquine. Là, c'est un autre débat, mais je veux dire qu'on entend aussi cette parole-là. Et c'est une parole que partagent des parents que vous devez croiser au moment où vous accompagnez vos enfants à l'école, des parents qui vous disent ben non, moi, il n'y a aucun souci, moi. Alexandra, vous devez croiser des parents comme ça.
Ouais, je voulais réagir justement et te remercier en particulier de nous donner la parole sur ce sujet, parce que c'est vrai que dans les médias, les masses médias, comme on dit, on entend effectivement un discours qu'on peut appeler mainstream, c'est-à-dire celui où on dit que l'enfant est adaptable, que finalement des effets, il n'y en a pas tant que ça, et que finalement c'est ce qu'il faut, c'est un moindre mal de permettre à ces écoles de rester ouvertes et à ces enfants de bénéficier du temps scolaire. Alors qu'aujourd'hui, nous, en tout cas, on avait envie de témoigner pour dire qu'on ne comprenait pas ces mesures, qu'effectivement il y a des discours discordants dans le taux de contamination, la charge virale des enfants, il y a, comme tu dis, à boire et à manger. On remarque aussi qu'il est difficile de débattre de ces mesures sanitaires. En fait, aujourd'hui, il y a, je le disais tout à l'heure, un discours mainstream, en fait, où en fait, finalement, quand on met en discussion ces mesures sanitaires, c'est comme si on était complotiste ou du coup dangereux ou irresponsable. Nous, on avait envie aujourd'hui de pouvoir utiliser cet espace de parole pour dire que les professionnels parlent de bénéfices-risques. Nous, aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, les risques sont mal évalués et que ces mesures sanitaires se font au détriment des enfants. Nous, on avait envie aussi de pouvoir donner la parole aux enfants parce que finalement, nous, on peut parler, on peut avoir un avis et finalement, c'est eux qui sont les premiers concernés. Donc, que ce soit les enfants de primaire avec le port du masque obligatoire depuis novembre, donc les enfants de plus de 6 ans, ou que ce soit les collégiens aussi qui, eux, du coup, ont le masque depuis...
Depuis plus longtemps que cela. Certains parents ont choisi de déscolariser leurs enfants pour ne pas, entre guillemets, subir cette mesure-là. Est-ce que ça a été votre cas ?
Alors nous, moi, en tout cas, à titre personnel, je n'ai pas déscolarisé mes enfants parce que j'avais envie, justement, qu'ils puissent bénéficier de discussions avec leurs enseignants, de pouvoir aussi bénéficier de ce qu'apporte l'école, en fait. L'école, c'est pas que des moments d'apprentissage, c'est aussi, on parlait tout à l'heure de l'enfant citoyen, c'est aussi des espaces où nos enfants puissent travailler ensemble, coopérer, discuter, ne pas être d'accord aussi finalement, en tout cas qu'ils soient avec le reste des enfants, comme tu disais, différents types de populations qui peuvent être plus ou moins influencés par ce que disent les masses médias. Et bien moi, c'était important pour moi que mes enfants ils puissent être avec ces autres enfants, du coup, et partager du coup leur vie d'enfant. Malgré, du coup, ces protocoles.
Oui. Stéphanie ?
Pareillement, j'ai fait le choix, en effet, de ne pas déscolariser, aussi parce qu'il y a un vrai dialogue qui peut s'instaurer dans nos écoles avec les enseignants. Et ça, c'est très, très important, je crois, parce que les mesures, elles ont une telle incohérence que chacun les applique différemment. Et en fonction de leur application, le bien-être de nos enfants et aussi, lui est aussi différent leur, et leur ressenti est différent. Donc, on ne peut pas faire de cas, enfin, on ne peut pas faire de généralité. Voilà. C'est aussi au cas par cas. Et par contre, en effet, sur la question de l'incohérence, c'est vraiment ça. En effet, on va le voir un peu plus tard, dans les interviews qui ressort aussi. C'est-à-dire, même nous, en tant qu'adultes, on ne sait plus. On ne sait plus quoi croire, on ne sait plus qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Voilà, et donc on aboutit à une perte de sens avec autant de changements de mesures, perte de sens pour nous en tant qu'adultes, mais alors a fortiori, une perte de sens pour les enfants. Et comme on le sait bien, nous en tant que parents, notre boulot de parents, c'est vraiment de donner du sens dans la vie à nos enfants, de donner du sens à la règle. Et aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est que la règle ne fait plus sens parce qu'elle n'en a plus. Et à ce moment-là, comment nous, moi c'est vraiment la question que je me pose aujourd'hui, comment accompagner nos enfants aujourd'hui dans cette perte de sens ? Et comment on peut redonner du sens alors qu'on n'a pas les clés ? de tout ça.
Peut-être que Julie Maillande, psychologue pour enfants et adolescents, aura quelques conseils à te donner, à donner à ceux qui nous écoutent un peu plus tard. J'aimerais que l'on écoute, je te prends au mot, hein, Stéphanie, par rapport au ressenti des enfants. On va écouter un premier extrait de ces paroles d'enfants qui ont été glanées sur le territoire, hein, avec les moyens du bord. Donc la qualité du son n'est pas toujours terrible, mais au moins on entend ce qu'ils nous disent là, notamment par rapport à leur ressenti sur le contexte actuel.
C'est difficile de se souvenir quand maintenant on fait comme ça. Et avant, du coup, on sait plus trop comment c'était.
Au début, tu comprends pas trop, t'es un peu énervé, mais...
Avec les devoirs qui s'accumulaient, avec les objets parasites, on n'a pas envie de le faire, on a envie d'aller dehors, on a envie de faire autre chose. On n'a pas trop envie de faire ses devoirs toute la journée dans sa chambre. Du coup, au final, ça s'accumule et tout ça.
Est-ce que tu penses qu'on va revenir à une vie normale? Par exemple, ceux qui avaient peur, qui sont restés confinés chez eux, qui veulent pas voir, mais ça va être encore, ils vont être encore moins sociables. Moi, je pense après le confinement, même s'il y a pas de maladie.
Et aussi, on voyait pas ses amis, rien. Puis voilà, c'était un peu pénible.
Maintenant, en fait, on s'est habitué depuis la rentrée. Maintenant, on s'est habitué, du coup, c'est plus facile.
Pareil, ils nous oublient jamais du gel à chaque fois qu'on va au tableau. Déjà, moi, ça m'enlève de la participation parce que moi, il est hors de question de mettre du gel, quoi. Le gel, c'est horrible, ça fait hyper mal aux mains en plus. Je trouve ça désagréable. En plus, on a l'impression d'avoir un liquide dégueulasse sur les mains, là. C'est, en plus, ça pue, ça fait mal et tout. Donc, moi, j'arrive pas à supporter. C'est vraiment pénible, quoi.
Le truc que moi, je j'arrive pas à imaginer.
T'as une des profs les plus sévères. Bon, elle est quand même sympa, tu vois. Mais elle se relâche, quoi. Elle a fait le Naruto Run. Je sais pas si tu connais. En gros, le Naruto Run, c'est le fait de courir avec les bras en arrière.
Qu'il va y avoir une précaution, même si on redevient, par exemple, quand on a des guinguettes, des fêtes, des spectacles, des trucs comme ça, ça sera... J'imagine pas des gens qui viendraient d'habitude, qui viennent... Et qui là se dirait, y a eu un virus qui a circulé il y a 2 ans, on peut toujours pas sortir, c'est quand même dangereux. C'est dire ça, moi je comprends pas trop. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer, c'est. Ouais.
Je commence à un peu trop m'habituer au masque, c'est-à-dire que même chez moi, des fois, j'enlève plus parce que pour moi, c'est une habitude de l'avoir. Mm-hmm. Pour moi, c'est genre un mécanisme. Quand je sors, je mets le masque. Même maintenant, me promener dans le boss comme ça, là, sans le masque, c'est presque. Gênant pour moi. J'ai l'impression d'être pas à l'aise. Je trouve pas ça normal qu'on ait à se sentir mal à l'aise de ne pas porter un masque. Alors que ça fait même pas. Enfin, ça va faire bientôt 1 an, on l'a, quoi.
Elle s'habitue au masque et à la musique de Rihanna aussi qu'on entendait en fond là à l'instant. Des paroles d'enfants, hein. Ce n'est pas un sondage, hein, mais un petit panel de ce qu'ils pensent, de ce que certains d'entre eux, de ce qu'ils pensent. Ils habitent ici, hein, ils habitent tout près de nous. Ils fréquentent les établissements aussi qui sont sur le pays. Alex, en quelques mots, la démarche d'enregistrer ces paroles d'enfants là.
Ouais, donc en effet, tu parlais de la qualité qui est pas bonne avec le son Rihanna derrière. On a fait ça avec vraiment les moyens du bord. L'idée, c'était de pouvoir mobiliser un certain nombre de parents à tendre le micro à ses enfants et ados avec la simple question et la question ouverte qui était « Comment vivez-vous la période coronavirus actuelle ?» Donc l'idée, c'était vraiment, nous, on avait vraiment un point d'honneur à ne pas influencer ou en tout cas que l'enfant puisse calquer ou répéter ce que dit l'adulte. C'était vraiment de tendre notre micro ou notre téléphone portable, en effet, et de pouvoir avoir leur ressenti, leur vision, leur avis, et qui n'est pas forcément celui des parents, je tiens à le préciser. C'est-à-dire que même si nous, on a des idées, nos enfants ne peuvent ne pas les partager.
Les partager, oui. Mmh. Mais voyons un peu ce que pense une association de parents, hein, du Tarn notamment. Gilles Fermand, vous êtes membre de la Fédération des parents unis du Tarn. Pour commencer, un mot, un peu de présentation, hein, sur cette association.
Oui, donc la Fédération des parents unis du Tarn, c'est un mouvement qui s'est créé très rapidement après le 2 novembre, en fait, quand il y a eu l'obligation du port du masque à l'école pour les 6-11 ans. Donc ça s'est fait un peu spontanément, des parents isolés, puis des collectifs de parents dans différentes villes du Tarn qui se sont rassemblés de manière digitale, hein, parce qu'il y avait déjà toutes les contraintes de rassemblement.
Ouais.
Ça, c'est important aussi dans les difficultés qu'on a à s'organiser, qu'on pourra en reparler plus tard. Et donc, il y a un site internet qui a été créé très rapidement avec la création de grandes lignes sur la manière dont on voit les choses et comment on se positionne.
Un peu les valeurs de l'association à la base, quoi.
C'est ça, les valeurs. Et donc, c'est clairement, c'est des parents qui questionnent. Très vite, on est allé sur l'idée du bilan bénéfice-risque du masque dans les écoles, notamment chez les jeunes enfants. Donc on est rentré d'abord aussi, je tiens à remercier CFM pour ce temps d'antenne, ce temps de réflexion, parce que avec la fédération on a énormément de mal à trouver des espaces de dialogue sur ce thème. Dès le début on a essayé de passer par les conseils d'école, rarement on a été écouté, voire on a été accepté. Après ce mouvement, ça nous a permis d'être en relation avec plusieurs quand même autorités. On est en dialogue permanent avec les préfectures. Rapidement aussi, quelques mois plus tard, des rapprochements se sont faits avec d'autres rassemblements, d'autres mouvements départementaux pour former une union nationale des collectifs de parents d'élèves critique à l'obligation du port du masque dans les écoles. Ça s'appelle Enfance et Liberté. Donc là, bon, pour donner quelques chiffres, on estime environ 40 000 parents réunis dans ce mouvement et environ 400 collectifs locaux, dont la fédération des parents. C'est important de voir que aussi les choses se sont très bien organisées à l'échelon national. Enfance et Liberté s'est très vite rapproché de collectifs de soignants, de collectifs de médecins. On peut nommer notamment Réinfo Covid. Tous les mois, il y a des réunions entre Enfance et Liberté et Réinfo Covid avec des pédiatres qui participent à ces discussions. Et plus récemment, ça vaut le coup de mentionner aussi la coordination de santé libre qui représente aujourd'hui plus de 30 000 médecins, 30 000 soignants et qui passe des recommandations vis-à-vis de toute la gestion de la crise, c'est pas que sur les masques, et qui ont notamment un conseil scientifique indépendant. Et il y a 2-3 semaines, lors de leur troisième conférence, ils ont explicitement donné leur appui plein et total, je cite, au mouvement Enfance et Liberté sur quelconque action juridique en termes d'argumentation scientifique contre l'obligation du port du masque à l'école.
Mais où est-ce que tous ces échanges-là ont lieu ? Alors, on sait qu'on ne se rassemble presque plus, c'est beaucoup en ligne, mais comment faire pour avoir ces informations ? Pourquoi est-ce qu'on ne vous entend pas ? J'ai du mal à croire que tous les médias de France vous ferment leurs portes, quoi.
Bon, alors déjà, on fait, entre guillemets, avec les moyens du bord, hein, on est tous volontaires là-dedans. Souvent, on a tous un métier à côté, et donc c'est difficile de se disponibiliser de se rendre disponible pour parler du thème, pour occuper les espaces.
Ouais, ouais.
En plus de ça, tout ce qui est un peu critique, comme ça a déjà été dit, on est vite taxé de complotiste et tout ça. Donc le dialogue déjà est difficile, c'est pas facile de se mettre en avant. Mais petit à petit, on gagne des espaces. Bon, on a une preuve aujourd'hui, et puis ça continue.
Par rapport à Réinfo Covid, Stéphanie, je crois que tu voulais nous parler un peu de je vais dire association. Je ne sais pas si c'est une association ou un collectif qui a d'ailleurs une antenne départementale ici dans le Tarn.
Oui, donc Réinfo Covid, je pense qu'on ne l'a pas. Enfin, voilà, tout le monde le connaît un petit peu ce site maintenant, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très très riche en informations et en informations vérifiées. C'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'actuellement, on trouve de tout sur Internet, sur tous les sujets, sur la question du masque, des études scientifiques qui sont plus ou moins faussées aussi. Il faut pas se mentir, avec donc les enjeux politico-économiques et autres. Et donc, il est intéressant d'avoir un vrai site où il y a des infos vérifiées, où il y a des professionnels à la fois de santé qui s'expriment, des professionnels qui sont auprès des enfants chaque jour aussi, comme les orthophonistes qui ont écrit des manifestes, notamment avec tous les points vraiment concrets, puisque ce qu'on parlait tout à l'heure et ce que tu évoquais, Jacques, tout à l'heure, c'était la question de savoir est-ce que réellement il y a un impact pour les enfants du port du masque. Donc il y a des impacts qu'on ne peut pas mesurer aujourd'hui parce qu'en effet, ils se mesureraient dans le temps. Par contre, il y a des vrais impacts aujourd'hui que tout le monde et tout un chacun peut mesurer avec ses enfants. À savoir, par exemple, notamment la difficulté qu'ils ont à entendre les paroles des enfants. Donc, sur Info Covid, il y a beaucoup de choses qui concernent les informations médicales et également donc toutes les antennes de Réinfo Covid qui sont un petit peu partout en France et qui permettent d'avoir des interlocuteurs à solliciter dans le rural, nous chez nous, et où on peut être accompagné notamment dans les discussions qu'on peut avoir avec les écoles, les directeurs d'école, les maîtresses s'il y a besoin, etc. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à les solliciter, ils sont très disponibles et très ouverts pour ce genre de choses.
Vos détracteurs diraient que les fake news, elles sont plutôt du côté de Réinfo Covid.
Après, Réinfo-Covid invite les personnes à se renseigner par eux-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a énormément accès à l'information. Donc moi, ce que je dis aux gens, renseignez-vous. Mmh. Renseignez-vous, regardez, vérifiez par vous-même les sources. Et puis, vous ferez votre choix.
On parle de l'impact de ce port du masque, de ce contexte aussi sur le psyché, le développement, l'apprentissage des enfants. Dans quelques minutes avec Julie Maillant, de psychologue pour enfants et adolescents, j'aimerais qu'on écoute un autre extrait de Parole d'enfant et vous entendrez parler d'une problématique que l'on aborde pas souvent, c'est celle qui concerne notamment des enfants qui sont porteurs de certains handicaps plus ou moins sévères.
Donc je m'appelle Martin et je suis en troisième au collège. Et je vais vous parler du masque parce que c'est compliqué pour moi parce que je suis sourd et enfin je suis malentendant et c'est compliqué pour moi d'apprendre les cours et d'entendre les profs comme il faut ou d'entendre mes amis quand ils me parlent et je voulais vous parler de ça parce que on n'entend pas trop parler des malentendants et des sourds, mais c'est compliqué pour eux, quoi.
C'est quand même très compliqué, enfin moi ça va, mais après pour les plus petits, les trucs comme ça, le masque, ça doit être compliqué de le mettre tout le temps, de tout ça, ça pour la respiration, pour les expressions du visage et tout ça.
Et aussi du coup, ceux qu'on connaît pas, ben, on sait pas trop à quoi ressemble leur visage quand on a tout le temps le masque.
Bah ouais, je peux raconter que déjà en cours, il y a des profs, ils parlent très doucement. Mais en temps normal, je peux les entendre quand ils n'ont pas le masque parce que j'arrive bien à lire sur les lèvres. Et maintenant qu'il y a le masque, c'est un peu compliqué pour certains profs qui parlent pas fort du tout ou qui sont pas compréhensifs, quoi. Enfin, je leur dis des fois de répéter, mais des fois c'est un peu énervant de leur dire « Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ». Enfin, ça me gêne un peu, quoi.
C'est vrai que ouais, pas voir des gens comme ça et tu t'y habitues pas. Et surtout au collège, quand t'as énormément de profs, énormément de surveillants, tu les as jamais vus sans masque. Mm. C'est, on dirait sans voir leur visage, on dirait qu'on les connaît pas. C'est...
Ouais, entre nous, ça va, enfin, y a rien de spécial. À part que, par exemple, s'il y a quelqu'un qui me parle dans la cour, qu'il y a des gens autour, des fois je fais répéter genre 5 fois, et après il me dit non, rien. Et ça m'énerve un peu, quoi.
Julie Maillard, psychologue des enfants et adolescents, question simple. Est-ce qu'il est possible, de manière générale et ferme, de dire si le port du masque peut avoir des conséquences sur la psychologie des enfants?
Alors, en effet, je pense qu'il y a de plus en plus de recherches qui sont menées actuellement hein, sur l'impact du port du masque en milieu scolaire, impact sur le développement de l'enfant et donc sur leur bien-être. Après, évidemment, moi, personnellement, dans mon cabinet, par exemple, j'ai peu de témoignages, voilà, de souffrances directes liées au port du masque. C'est plutôt lié au climat anxiogène, ambiant, voilà, qui est assez contraignant et qui est source de stress, d'angoisse, en fonction des capacités de chaque enfant. C'est-à-dire que, voilà, comme disait Stéphanie, c'est un peu aussi au cas par cas. Mmh. Évidemment, on ne peut pas généraliser en fonction du bagage aussi, des compétences individuelles. L'enfant ne va pas vivre de la même manière.
Et d'ailleurs, certains spécialistes disent que des parents, parce que ce sont plutôt les parents qui vont transmettre leur anxiété aux enfants, que tout dépend aussi comment cela a été présenté et expliqué à l'enfant.
Tout à fait. Bah oui, les enfants, évidemment, modélisent énormément. Donc, en fonction de l'âge, bien sûr, ça n'aura pas le même impact. Mais globalement, en fonction du discours et de l'état émotionnel des parents, voilà, l'enfant ne va pas le vivre de la même manière. C'est pour ça que ce qui est vraiment important pour moi, c'est que, en tout cas, qu'il y a un espace d'expression dans la famille où l'enfant puisse exprimer comment il vit, voilà, qu'est-ce qu'il ressent, comment... Qu'est-ce que ça génère comme incompréhension et que ce soit simplement un dialogue ouvert, voilà, en évitant les jugements, en évitant la moralisation, la culpabilisation, et ce qui invite les parents évidemment à aussi, je pense à faire un travail de mise à distance de ces peurs, etc. Parce qu'évidemment pour les parents, on peut pas enlever le fait que ce soit aussi stressant de pas savoir où on va, quand est-ce que ça va s'arrêter, de pas pouvoir donner des réponses clair aux enfants. Mais voilà, c'est aussi ces questionnements-là. On n'est pas obligé de partager tout ça avec nos enfants.
on peut exprimer ce qu'on ressent en tant que parent, ça me semble assez important aussi, sans voilà, les envahir, les submerger par nos peurs et éventuellement ce que...
Le stress et l'anxiété que ça génère en nous. Par contre, pour des enfants, surtout ceux qui sont en bas âge, ne pas voir de visage la bouche de la personne qui parle, et d'ailleurs je fais une digression, même si c'est tout de même lié, hein, dans les crèches et les écoles maternelles, les enfants ne portent pas de masque, mais les adultes si, et donc ça pourrait avoir des conséquences finalement sur l'apprentissage du langage et des codes, on va dire, de société.
Tout à fait. Faut quand même rappeler que la socialisation, l'apprentissage de la vie en collectivité est d'une importance capitale dans le développement de l'enfant, que ce soit le développement psychique, cognitif et même biologique. Donc la qualité des interactions avec notre environnement est essentielle au bien-être de l'enfant. Alors imaginez un enfant de 1 ou 2 ans qui est caractérisé par son immaturité cognitive et émotionnelle, être face à des adultes masqués toute une journée, qui sont donc privés d'une partie des informations données par l'expression du visage. Mmh. Comment peuvent-ils acquérir les compétences relationnelles? Comment peuvent-ils décoder les mimiques pour les reproduire et avoir accès aux émotions et à l'empathie? C'est quand même fondamental dans le développement de l'enfant.
Oui. Gilles?
Oui, non, juste pour rebondir sur ce que dit Julie, une étude psychologique allemande l'a menée auprès d'environ 1000 participants, donc a révélé des conséquences psychologiques graves. Et notamment, les chercheurs de l'université de Bamberg ont découvert que les masques rendent plus, j'ouvre les guillemets, rendent plus difficile la perception émotionnelle chez l'autre, conduisent à des interprétations erronées et attaquent ainsi la confiance dans sa propre perception. Mmh. Je pense exactement que c'est exactement ça, ça que tu disais.
Voilà. Ouais.
Alex, merci, Gilles, ouais. Alex, tu voulais,
moi, je voulais
intervenir aussi.
Justement, revenir sur des paroles d'enfants, et c'est vrai que ça, c'est des témoignages que mes enfants, du coup, peuvent me dire, me faire parvenir, c'est-à-dire que le décodage des émotions, l'ambivalence en fait de le savoir décoder en fait un regard.
Oui.
Quand ma fille me décrit le regard de sa maîtresse et elle me dit mais des fois je ne sais pas si la maîtresse me regarde voilà de manière positive ou pas, et donc du coup il y a quand même ce stress là de ne pas savoir entre guillemets, ce que pense l'autre. Après, je voulais dire aussi, et ça, c'est quelque chose qui me questionne vraiment dans la gestion de la crise actuelle par le gouvernement, c'est que j'ai entendu récemment Angèle Consoli, qui est une pédopsychiatre qui est rentrée au conseil scientifique, du coup, il y a peu. Donc, elle remerciait d'ailleurs le fait que la pédopsychiatrie, la psychiatrie de manière générale, soit rentrée au conseil scientifique, bien qu'il y ait eu toujours des petites attentions à ce sujet-là. Mais elle disait justement qu'aujourd'hui, les études de terrain montrent en fait qu'il y a des impacts déjà sur la petite enfance. Il y a des retards de langage, il y a des difficultés de sommeil, il y a des conflits intrafamiliaux du coup qui peuvent se mettre en jeu par rapport au confinement et aussi par rapport au manque de perspective. Donc ça, c'est moi, je questionne aujourd'hui ces politiques sanitaires, parce qu'en fait, à quel moment en fait on prend en compte ces effets sociaux, ces effets psychologiques? C'est quelque chose qui peut, moi, m'inquiéter, et qui est aussi la question de la vision de la société qu'on a et qu'on veut, en fait.
Mmh. Voilà. Stéphanie?
Tout à fait. Donc, il y a un manifeste qu'ont créé les orthophonistes qui est assez long et explicite sur, justement, les impacts qu'elles ont pu constater aujourd'hui dans les cabinets avec les enfants qu'ils suivaient par ailleurs. Et donc, il s'appelle « Mise au cachot d'une parole en construction », très intéressant, et qui permet en effet donc de montrer à la fois chez des enfants, entre guillemets, qui n'ont pas de difficultés particulières, l'impact que ça a déjà, mais également sur, là on entendait Martin qui s'exprimait dans les paroles d'enfants, donc un enfant malentendant, et qui exprimait toutes les difficultés qu'il a. Donc on le sait qu'aujourd'hui, la question des enfants en situation de handicap dans l'école est une vraie question qui se posait déjà avant la période de Covid, mais aujourd'hui, a fortiori, ces enfants-là se retrouvent en difficulté, moqués aussi par certains autres parce qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir entendre l'intégralité des choses qui sont dites par les profs, etc. Et donc, ça vient là creuser davantage des inégalités aussi au sein même de l'école.
Ceci étant, il y a des parents qui ont déscolarisé leurs enfants, d'autres qui serrent le cœur en les voyant partir à l'école et ressortir plusieurs heures plus tard avec ce masque sur la bouche, le nez. Julie Maillande, même si tu as commencé à nous donner quelques pistes tout à l'heure, quel conseil aux parents, aux enfants aussi pour, disons, traverser au mieux cette période que personne n'espère voir perdurer?
Oui, c'est déjà... Fondamentalement, c'est offrir cet espace d'expression, de pouvoir dialoguer librement avec ses enfants et voilà, qu'ils se sentent en confiance. C'est vraiment comment se sentir en confiance, en sécurité dans sa famille et pouvoir discuter librement des inquiétudes, des questionnements,
Alors je repensais à ce que disait Stéphanie sur la question de la cohérence, du sens. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut voilà, aiguiller nos enfants en ce sens-là? Évidemment, il n'y a pas de réponse magique, je dirais. Ce qui est vraiment le plus important, c'est comment l'enfant peut se sentir, ou l'adolescent, hein, pareil, en sécurité dans sa famille. À partir du moment où il se sent en confiance et en sécurité chez lui, je dirais que le reste, il sera en mesure de s'accommoder et de faire
et
face.
D'affronter, ouais.
Et d'affronter les difficultés. Et ça, c'est vraiment, vraiment, voilà, l'essentiel. Et peut-être pas, voilà, exprimer toutes ces peurs à nos enfants, parce que je pense à ses parents, et j'en fais partie, hein, révoltés par la situation actuelle et ce manque de dialogue avec les instances en charge des décisions de l'éducation de nos enfants. Mais voilà, c'est pas forcément à eux de porter aussi, déjà qu'on leur fait porter la responsabilité de la protection de la population, alors que c'est absolument insensé de faire ça à nos enfants, mais voilà, si en plus ils doivent porter la peur et la colère, le stress de leurs parents, ça va rajouter un poids énorme. Donc voilà, on peut partager et exprimer notre mécontentement sans pour autant submerger de cette peur. Et après, pour les enfants plus jeunes, je dirais qu'il y a des outils, des supports qui sont plutôt bénéfiques. La lecture, d'ailleurs, elle en parle, hein, ce que vous disiez tout à l'heure. Le support de la lecture avec les enfants, voilà, de pouvoir, vu que l'accès à l'extérieur, à l'environnement est réduit aujourd'hui, bah peut-être faire venir le monde un peu plus à eux à travers des histoires, voilà, et ça peut être un support de discussion pour voilà, des questionnements qui se posent.
Ne pas hésiter donc de temps en temps, c'est pas forcément tous les jours, mais non. Quand l'enfant il rentre de l'école, alors comment ça se passe? Tu le vis bien, ça va, c'est pas trop dur? Est-ce que tu as des boutons qui apparaissent? C'est peut-être l'acné, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être le masque qui te crée ces boutons. Gilles Fermant, tu voulais rajouter quelque chose?
Oui, là on a entendu donc des témoignages avec d'enfants avec certaines spécificités. Nous à la Fédération, dès le début, certes avec la préfecture, on avait une demande globale qui était l'arrêt de cette mesure obligatoire. Mais on a fait aussi un certain nombre de demandes d'assouplissement, entre guillemets. Notamment, on demandait d'enlever le masque à la récré. On demandait donc d'avoir un traitement spécial pour les enfants avec certaines spécificités. On demandait aussi d'accepter, donc dans le même sens, les certificats médicaux sans faire de discrimination avec les enfants qui ensuite allaient à l'école sans masque. Donc voilà, tout ça, pour l'instant, on n'a pas eu non plus de réponse
en
positive
sur ça. En tout cas, ça a été proposé, ce sont des pistes.
Oui,
quoi.
Tout à fait.
Ouais. Bon, on va écouter maintenant ce que pensent certains enfants, ce qu'ils ont à nous dire plutôt par rapport au rang. Voilà, quand on est à l'école, on n'est pas alarmé, mais on continue encore à se mettre en rang pour organiser tout ça avant que tout le monde ne rentre en classe. Et puis nous passerons un coup de fil juste après à Bérangère Bassé, qui est enseignante et membre du syndicat Sud Éducation Tarn.
Bah pareil, du coup en études et tout, on est rangé par colonne de classe, les bilingues, les non-bilingues. Comme c'est des classes mélangées, pareil, c'est par colonne.
Bah, nous, pendant une période, on ne changeait plus de classe. C'était les profs qui changeaient de classe et qui venaient.
On doit se regrouper par classe en attendant que les profs viennent nous chercher.
Oui, enfin, dans la cour, en gros, on est rangé toute la classe. On est censé être rangé toute la classe. Enfin, les 3e B, les 3e C, les 3e A.
Ou avec le sens de circulation, dans le collège, tu dois sortir par là, même si ça te fait 400 mètres de plus, ben tant pis, on le fait quand même.
Et pour les mesures sanitaires ou je sais pas quoi?
Bah, c'est plus strict maintenant. Et puis dans tous les magasins, dans tous les trucs, c'est maximum de personnes ou des trucs comme ça, ou des distanciations.
Et pareil pour toutes les classes. Et les 3e et les 4e, ils doivent être dans la cour en bas, la cour du bas.
Les emplacements, tu peux pas aller plus loin que si, tu peux pas aller faire ça. Et tout ça c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de limites. De trucs que l'on peut pas faire.
Bah au moins on n'avait pas à chaque fois mettre notre sac sur notre dos et courir dans les cours.
Au bout d'un moment c'est quand même abusé. Tu peux pas aller chercher ton sac, s'il est là-bas il faut attendre la sonnerie et là tu peux aller chercher par classe, puis le prof vient vous chercher, vous montez en classe.
Et les 6e et 5e ils sont obligés d'être dans la cour du haut.
Ils n'ont pas le droit de manger deux classes. Du coup des fois quand tu te croises ils font comme ça les barrières et enfin, c'est un peu humiliant quoi. Je veux dire... On passe cracher dessus. On va pas enlever le masque, il va dire peu. Enfin, je sais pas, c'est pas comme si on est tous crachés dessus encore.
Sans traverser quelqu'un d'autre, sans voir quelqu'un d'autre, s'il traverse, vous devez vous arrêter. Toujours comme ça.
Et s'il y a quelqu'un qui va dans l'autre cours, eh ben, il se fait disputer.
Ils ont l'air vraiment ridicule en plus quand ils font ça, quoi. Je veux dire. Comme ça, là. Voilà, quoi.
Mieux vaut tard que jamais, la suite sur CFM Radio. Si vous prenez l'émission en cours, nous débattons du port du masque en milieu scolaire, que ce soit à l'école primaire, au collège, au lycée. Et quand je dis nous, c'est Alexandra et Stéphanie qui sont mobilisés contre ce port du masque et qui font partie d'un collectif de parents du territoire. Il y a également avec nous Gilles Fermant, membre de la Fédération des parents unis du Tarn, Julie Maillande qui est psychologue pour enfants et adolescents. Et nous sommes maintenant par téléphone avec Bérangère Basset qui est professeure dans un collège à Albi et qui est membre du syndicat Sud Éducation Tarn. Bérangère Basset, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Bérangère. Pour commencer, des questions un peu triviales, hein, pour que l'on sache un peu quelles sont tes conditions de travail. La matière que tu enseignes, c'est quoi et à quel niveau ?
Alors, moi j'enseigne les lettres classiques, c'est-à-dire le français, le latin, et le grec quand il y en a, là j'en ai pas actuellement. Donc j'ai essentiellement cette année des cours de latin en collège à Albi en effet, et puis j'assure aussi des vacations à l'université Jean-François Champollion d'Albi. Et là je donne des cours de littérature française du XVIe siècle. Et je précise juste que je suis effectivement syndiquée à Sud Éducation, mais qu'aujourd'hui j'ai pas de mandat du syndicat, et c'est une parole personnelle d'enseignante que je fais entendre.
Mais d'ailleurs, comment en tant qu'enseignante, professeur, tu vis ce port du masque? On parle des enfants, mais vous aussi, adultes et enseignants, vous devez le revêtir plusieurs heures par jour.
Oui, alors on le revêt moins longtemps que les enfants, hein, somme toute, parce que nous, on a souvent, du moins dans le secondaire, des tranches horaires plus morcelées. Néanmoins, ça crée des conditions d'enseignement très particulières. Difficile à assumer parce que ça fatigue énormément de parler avec un masque. Ce sont des masques qui ne sont absolument pas faits pour parler plusieurs heures avec, ou même une heure durant. Ça crée des maux de tête. Alors bien sûr, on s'y habitue, bien sûr, on s'adapte, mais ça n'est absolument pas une raison pour banaliser le port de ce masque et pour ne pas prendre en compte la manière dont ça modifie notre relation avec les enfants, parce que c'est très compliqué de ne voir qu'une partie du visage des enfants, de ne leur montrer qu'une partie de notre visage. Il y a énormément d'émotions, on le sait, qui passent par le bas du visage également. Et tout ça n'a pas été pris en compte. Et en fait, ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que ce port du masque est un peu rentré dans une normalité. On ne s'interroge plus sur ce que ça nous fait, ce que ça fait aux enfants. On n'a pas d'échéance sur le moment où on va pouvoir cesser d'enseigner avec cet accessoire qui n'est absolument pas un accessoire prévu pour l'enseignement. Voilà, c'est des questions qui ne se posent pas, c'est des questions qui ne sont pas prises en compte par notre administration, alors qu'on a pu alerter là-dessus. Et tout ça nous inquiète et fait qu'on a une année très particulière où on construit une relation avec les enfants qui n'est pas la relation que l'on a habituellement, et bien évidemment ça nous affecte. Ça nous affecte parce qu'on a l'impression que l'école qui s'est mise en place avec le Covid, c'est antérieur hein, au Covid, mais ça a été accentué par le Covid, c'est une école qui a perdu le sens de ses missions, qui ne s'interroge plus sur ses missions. L'école, elle est là pour prendre soin des enfants qui lui sont confiés, elle est là pour assurer leur épanouissement intellectuel, mais aussi personnel. Et en fait, dans la hiérarchie, on ne s'est pas demandé si le port du masque allait nous permettre de poursuivre cette mission essentielle de l'école.
Alors, on se retrouve ici aujourd'hui autour, on va dire, de la table virtuelle avec toi. On est à peu près, quand je dis on, c'est les quatre personnes qui sont en face de moi, sont à peu près tous d'accord pour dire que ce port du masque est ridicule pour les enfants dans les écoles. Et pourtant, il y a des parents qui estiment, qui jugent que ça ne pose aucun problème, que c'est pas très grave et que ça, il en va de la sécurité sanitaire de tous. Qu'est-ce qu'on répond à ces personnes-là?
Nous, on est un peu les enseignants et enseignantes, hein, laissés face à ses parents sans soutien. de l'administration. En fait, moi, je suis pas capable de dire si, enfin, c'est pas mon rôle, c'est pas, j'ai des convictions personnelles, mais en tant qu'enseignante, j'ai pas de discours à porter sur la nécessité ou pas du port du masque. Je sais que ça nous affecte, je sais que ça affecte les enfants. Après, est-ce que c'est dangereux de ne pas en porter en tant qu'enseignante? Je suis pas à même de le dire. On respecte les instructions qu'ils nous ont données. Par contre, on aimerait bien pouvoir être soutenu par notre administration face aux questions des parents. Nous, on est en fait tiraillés entre des parents qui s'inquiètent de la situation sanitaire et qui imposent un port très rigoureux du masque, et puis d'autres parents qui s'inquiètent des effets du port du masque sur la santé psychologique, mais aussi physique, de leurs enfants. Et nous, on est tiraillés entre ces deux positions, et en fait, rien ne nous est apporté pour pouvoir apaiser les tensions. Je crois que la plupart des enseignants et des enseignantes que je côtoie souhaitent que cette question du masque ne soit pas un facteur de division entre les personnels de l'éducation nationale, entre les personnels et les parents. Au contraire, cette question-là, elle doit au contraire nous réunir, nous inviter à réfléchir ensemble, parents, enseignants, enseignantes, et puis plus largement tous les personnels qui interviennent à l'école, sur l'école que l'on veut pour nos enfants et sur les missions qui doivent être celles de l'école. C'est ça qui doit aujourd'hui nous amener à faire front face à des directives qui sont incohérentes, qui sont intenables et qui sont, je le redis, maltraitantes en fait pour les enfants.
Avant de passer la parole aux personnes présentes ici en studio avec moi, Bérangère, un élève qui ne porte pas son masque ou qui s'amuse avec en cours, il est exclu, qu'est-ce qui se passe ?
Alors ça dépend des profs en fait, hein, ça dépend de la posture des profs, ça dépend aussi des établissements, mais ça fait partie des questions qui créent beaucoup de souffrance chez les personnels. Beaucoup d'entre nous ne supportons pas de devoir sanctionner des enfants pour des mesures qui sont très difficilement applicables pour elles et eux. Et surtout, le port du masque à l'école, ça peut pas devenir une compétence à évaluer, et ça devient un peu inquiétant quand on commence à voir surgir sur des bulletins scolaires des remarques sur le port du masque à l'école. La capacité ou non d'un élève à porter ce masque, ça ne peut pas être dans les objectifs qu'on se donne. Il faut qu'on arrive à répondre aux questions légitimes que se posent les enfants sur les mesures qui leur sont imposées autrement que par la sanction. C'est normal que les enfants s'interrogent sur toutes ces mesures qui modifient considérablement leur quotidien, à l'école comme à la maison. C'est normal qu'ils souffrent d'une société dans laquelle on peut plus se prendre dans les bras, d'une société dans laquelle on est obligé de se tenir à distance des autres, dans laquelle on est obligé de se méfier des autres. Nous, c'est pas les enseignements qu'on veut leur transmettre. C'est normal qu'ils se posent des questions, c'est légitime, c'est plutôt sain. On doit pouvoir répondre à ces questions autrement que par la sanction.
Est-ce que quelqu'un autour de la table a une question à poser à Bérangère Basset, à Stéphanie ?
Alors, en effet, on en avait plusieurs, justement, du côté. Bon, vous aviez déjà un petit peu répondu. Hein. Bonjour, Bérangère, et merci, en tout cas, pour votre témoignage. Et donc, moi, je voulais revenir sur ce que vous disiez par rapport au manque de soutien que vous ressentez de l'administration. On peut complètement le comprendre. Nous, en tant que parents également, on a l'impression qu'on manque de soutien, à savoir notamment, on peut le dire, hein, puisqu'il n'y a pas de secret là-dessus, par rapport au collège, hein, au collège de Saint-Antonin, quand moi, en tant que parent, j'ai essayé de demander aux délégués de parents d'élèves, à l'APE également, de pouvoir, pourquoi pas, essayer de questionner, hein, via un questionnaire papier ou via une visio, ou etc., ou en tout cas pouvoir se connecter en tant que parent et échanger sur ces questions pour connaître un petit peu comment vont nos enfants concrètement dans le collège. On a eu des refus. C'est-à-dire que concrètement, on n'a pas le droit, on a eu une opposition de la direction sur cette question, c'est-à-dire on n'a pas le droit de communiquer en direct avec les parents via les cahiers de liaison des enfants. C'est-à-dire tout ce que nous devons faire en tant que parents, on doit le faire de manière informelle finalement, alors qu'à mon sens, il y a des vraies questions à se poser dans l'instance même de l'éducation nationale. Donc, il y a la question du soutien. En effet, je vous rejoins. Hein. Nous non plus, on n'en a pas en tant que parents et on ne veut pas relayer surtout les informations et encore moins les informations dissidentes, à savoir les manifestations, les événements, en fait, voilà, d'opposition au masque, etc. Voilà, donc il y a cette question. Et donc, moi, nous, on avait une question par rapport aux enfants, sur quel débat, en effet, puisqu'en effet, nous, on est d'accord aussi hein, sur l'idée qu'il faut qu'il y ait des débats avec nos enfants. Ça fait quand même un an que cette situation dure. Un an pendant lequel il ne s'est rien passé, enfin en tout cas nous, de notre côté, hein, dans les écoles, par rapport à un débat quelconque, pour entendre, recueillir cette parole des enfants, voir comment ils le vivent. Donc voilà, nous, on voulait savoir qu'est-ce qu'il y avait, en tout cas, comme retour de l'éducation nationale sur ces questions. Est-ce qu'il va y avoir des débats? Parce qu'on sait, quand il y a eu un attentat, par exemple, on a fait des débats dès le lendemain. Là, ça fait un an, il n'y a toujours pas de débat. Voilà, toujours pas de parole recueillie. Et ma deuxième question, c'est aussi, bon, c'est pas que à votre attention, hein, c'est vraiment plus à l'attention de l'éducation nationale, à savoir que aujourd'hui, donc, on est dans des dispositions où il faut faire respecter la distanciation sociale avec dans l'école, il faut faire des petits groupes, etc. Et pour autant, là, nous, dans certaines écoles, ils prévoient dès septembre la fermeture encore de certaines classes, de continuer ce mouvement-là de fermeture des petites écoles de campagne pour les regrouper sur des gros pôles scolaires où ils seront énormément nombreux. Toutes ces mesures-là qui continuent là aujourd'hui hein, à mettre en place, puisqu'on parle là de septembre, de supprimer des classes, etc. Donc c'est complètement à contre-courant des mesures sanitaires et de ce qu'il faudrait prendre en termes de distanciation et de petits groupes, mais on continue. Ça ne les dérange pas, ils continuent sur ce mouvement. Voilà, quels sont vous, votre avis un petit peu par rapport à tout ça?
Bah pour le coup, je vais donner une réponse à la fois d'enseignante et de militante syndicale. Sur la première question, l'espace de débat, bah, il va falloir l'imposer parce qu'effectivement, rien n'est mis en place. Et je vous rejoins, quand il y a des attentats, quand il y a eu l'explosion d'AZF à Toulouse, il y a des cellules psychologiques qui se mettent en place. Il y a un suivi psychologique des enfants qui a été assuré. Ça a été plus ou moins bien fait, mais il y a eu cette démarche-là. Là, rien n'est fait. Et il y a absolument besoin de faire un suivi psychologique des élèves, de savoir dans quel état ils sont, parce qu'on sait que beaucoup d'entre elles et eux ne vont pas bien, et on le voit au quotidien dans des situations de classe où il y a énormément de tensions dans les écoles, plus encore que d'habitude, parce que ce port du masque, cette méfiance à l'égard des autres, tout ce qu'on leur impose, la contenue dans leur mouvement, dans leur comportement, tout ça fait qu'ils ont énormément de pression sur les épaules, ces enfants, et ça se traduit par des situations souvent très conflictuelles. Il faut s'imaginer aussi que c'est des enfants pour qui l'école est devenue un pur lieu d'enfermement, plus encore qu'avant. Il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de possibilité de faire des projets où on rencontre beaucoup de gens. Tout ça a bien sûr un impact, des effets. C'est pas cette école-là qu'on veut. On veut une école ouverte, on veut une école, je le redis, qui permette l'épanouissement des enfants. Et là, les mesures qu'on nous impose, elles sont contraires à ça. Sur les mesures pour la rentrée prochaine, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux de fermer des classes, c'est scandaleux de nous enlever des moyens humains, alors que depuis le mois de mars dernier, on demande un plan d'urgence sanitaire pour l'éducation nationale. Plan d'urgence qui suppose ouverture des classes, recrutement de personnel pour avoir des effectifs réduits et pouvoir travailler dans de meilleures conditions malgré la situation sanitaire qu'on nous décrit. Et ça va plus loin que ça, parce que non seulement on ferme des écoles, on nous enlève des moyens, mais les moyens qu'on enlève, c'est aussi des infirmières scolaires. Hier, la cité scolaire de Bellevue à Albi était mobilisée parce que pour la rentrée prochaine, on leur annonce la suppression d'un poste d'infirmière. La cité scolaire de Bellevue, c'est deux établissements, un collège, un lycée, plus des classes préparatoires aux grandes écoles. Ça fait plus de 1000 élèves qui sont réunis là. Il y a actuellement deux infirmières et l'année prochaine, il n'y en aura plus qu'une. Il y a un scandale absolu. Ce que révèle le Covid, c'est une politique éducative désastreuse et nuisible pour l'ensemble de la société.
Encore deux petites questions pour toi, Bérangère Basset. Gilles Fermand de la Fédération des parents unis du Tarn.
Oui, c'est surtout pour commenter ce dernier point. Là, clairement, à la Fédération des parents du Tarn aussi, il y a un soutien hein, avec les enseignants pour demander plus de moyens pour les écoles. C'est clair, si on veut améliorer certaines mesures d'hygiène notamment, il faut des lavabos, il faut des locaux plus espacés, il faut des classes moins nombreuses. Ça rejoint un peu la question des hôpitaux. Ça fait un an qu'on nous dit qu'il n'y a plus de place en réa, il n'y a toujours pas eu une augmentation de place dans les hôpitaux et dans le système de santé en général. Hein. La question, ce n'est pas que les hôpitaux, c'est les traitements ambulatoires, bon, il y a plein de choses derrière ça. Donc oui, là-dessus, c'est un point qu'il faut mettre en avant dans cette gestion de crise, l'amélioration des conditions de travail à l'école et des conditions de vie à l'école, oui.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer d'abréger. Alexandra, je crois que tu avais une petite question ou en tout cas une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit avec Bérangère.
Ouais, bonjour Bérangère. Moi, je voulais profiter de ton témoignage pour remercier les enseignants et les enseignantes du coup en primaire et au collège. Moi, je le vois avec mes enfants en primaire. On parlait de peu d'espace, en tout cas pas de soutien de l'éducation nationale par rapport au discours, au débat. Mais je vois quand même l'enseignante de mes enfants qui prend le temps d'utiliser les savoirs de base pour justement donner la parole, comme proposer des productions à l'écrit sur le vécu, le ressenti du port du masque, etc. Donc moi, je voulais vraiment les remercier. Je voulais dire aussi, au même titre que Gilles, du coup, qu'on soutient les enseignants et que vraiment, on ne sait pas l'école qu'on veut. C'est vraiment pas vraiment le modèle qu'on souhaite pour nos enfants. Et moi, ce qui me questionne à titre personnel, c'est que aujourd'hui, je peux le constater dans ma petite école de campagne, c'est que quand l'institutrice est absente, notamment parce qu'elle est malade, bon, c'est une absente courte, mais toutefois, elle est quand même absente, et bien elle n'est pas remplacée. Et ça, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qu'on peut dénoncer. Je pense parce que voilà, ça montre aujourd'hui que les signes qui montrent que notre école ne va pas bien, vraiment. Donc on vous soutient et en tout cas merci. Et s'il peut y avoir plus de discussions entre professeurs, parce que c'est ce qui montre aussi le témoignage des adolescents et des enfants, notamment des ados au collège, c'est que chaque professeur y va de sa façon de faire et notamment se transforme souvent en policier, en flicage, en tout cas du port du masque. Donc moi, je vous invite aussi à pouvoir avoir, si vous pouvez, des espaces de discussion à l'intérieur des collèges, notamment, et des écoles, évidemment, pour pouvoir s'unifier et avoir un discours un peu plus cohérent pour nos enfants.
Bérangère, rapidement, ces espaces d'échange dont parle Alexandra, est-ce que c'est possible en quelques secondes?
C'est très compliqué en fait, il faut les imposer, la parole elle est un peu muselée et par l'institution qui sanctionne hein, beaucoup et qui quand même traque les enseignants et enseignantes qui dérogeraient aux mesures qu'on nous impose, donc c'est compliqué, il faut les imposer, je crois que le soutien des parents aide à ouvrir la voie, à autoriser une expression. C'est très important que l'école, elle soit faite par celles et ceux qui la vivent au quotidien. Et celles et ceux qui la vivent au quotidien, c'est pas ceux qui sont enfermés dans des cabinets ministériels ou d'inspection académique. C'est le personnel qui est sur place, ce sont les élèves, ce sont les parents d'élèves. C'est à nous de construire l'école et de décider de la manière dont nous la voulons.
Stéphanie, pour conclure.
Voilà, pour conclure, on voulait parler de l'avenir, parce que c'est vrai qu'aussi dans les témoignages des enfants, ce qui nous a beaucoup marqué, c'était leurs grosses interrogations par rapport à l'avenir, leur peur de l'avenir, les angoisses de l'avenir, et aussi ce côté tristouné qu'ils ont quand ils parlent de l'avenir et de comment ils se projettent. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se projeter. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à voir l'avenir positivement. Et ça, je trouve que c'est ça qu'il faut qu'on retienne, et c'est ça sur lequel il faut qu'on agisse aujourd'hui.
Merci Bérangère Bassé d'avoir été avec nous par téléphone.
Merci,
tu as un cours
vous.
Dans quelques heures, tu vas te masquer, aller retrouver tes élèves. Hein. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour intervenir.
Merci pour cet espace
émission.
D'expression en tout cas. Merci à vous.
Merci. Un dernier extrait que je voudrais que nous entendions avant de commencer, on va dire, la conclusion de notre débat. Il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps. On aura à peu près 5 minutes pour conclure. On a parlé un peu des espaces pour les enfants. On a parlé du rang, on a parlé on les a entendus plutôt sur comment est-ce qu'ils vivent un peu cette situation. Et là, l'extrait que je vous propose maintenant, c'est sur la récréation et la cantine, le rare moment, je vais dire, de convivialité, de sociabilité. Aussi dans les établissements scolaires.
Il y a encore les pions, il y en a beaucoup qui ont des enfants, donc il y en a beaucoup qui comprennent. Même ceux qui n'ont pas des enfants, ils sont sympas quoi. Des fois, on peut les enlever dans la cour, ils coulent et tout, ils nous disent rien. Ou même on peut les mettre sous le nez. Des fois, par exemple, il y en a certains qui nous autorisent à boire en étude alors que normalement c'est pas autorisé.
Souvent, il y a plein de gens qui l'enlèvent dans la cour.
D'accord.
On fait juste attention. Bon, aux surveillants, ils sont sympas donc ils nous laissent, mais c'est plutôt la CPE et la directrice.
Oui, il y a la CPE qui a dit de faire attention avec le masque et parce qu'elle est trop gentille, quoi. Un jour, je mangeais une clémentine dans la cour que j'avais pas fini ma clémentine, donc je l'ai prise et j'ai mangé. Il y avait la principale à la fenêtre qui a ouvert la fenêtre et a dit « Martin, tu remets ton masque, on mange pas dans la cour », alors que j'étais à l'écart, quoi. Et après, elle regardait par la fenêtre, elle était comme ça, et elle regardait que tout le monde mettait bien son masque. Des fois, elle se met dans les escaliers et elle regarde tout le monde comme ça, quand les élèves y montent.
On n'a plus le droit de manger entre classes. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on mange chacun sa classe. Je trouve ça dommage, parce que du coup, je vois plus mes... Enfin, après, on arrive toujours des moyens de contourner, quoi, mais...
On mange tous serrés, et on n'a pas le masque. Du coup, on se postillonne dessus.
Bah oui, c'est ça qui paraît débile. On est tous à côté, agglutinés. On n'est pas en diagonale ou des choses comme ça.
Pareil, quand on se lève pour mettre la carafe d'eau et tout, on doit mettre le masque tout le temps. Je sais qu'on se décale. Moi, je trouve ça stupide d'ailleurs qu'on soit obligé de le garder en classe. On est assis à table pendant la cantine et on enlève le masque pour manger. Et en plus, je veux dire, quand on mange, on postillonne. On peut même mettre de la nourriture qu'on avait dans notre bouche, c'est un peu dégueulasse, mais dans l'assiette des autres et tout.
Ouais, c'est vrai, tu peux que parler à l'arrivée, en fait. Il n'y a rien d'autre que tu peux faire. Touche touche, non. Foot, non. Ping-pong, non. Et c'est non à tout, à part se mettre à 1 mètre de distance, 1 mètre 50 et parler.
Mais dans tous les cas, on reste quand même un peu trop éloigné, je trouve. Même dans la cour, des fois, ils me disent, la principale, elle arrive et qu'elle nous voit deux classes mélangées, elle va nous demander de nous séparer, quoi. D'accord. Moi, je trouve ça hyper dommage parce que sinon, parce qu'elle met tous les amis dans la même classe, mais ça ferait pas assez de classe, donc genre, ce serait bizarre.
Ok, au début, t'as bien papoté, mais au bout d'un an de rester à un mètre et juste papoter, au bout d'un moment, t'as plus rien à dire. Hein.
Alors qu'en classe, genre, on est juste comme ça et on parle de temps en temps en levant la main. C'est 100 fois moins pire que la cantine. Et pourtant, on n'a pas vraiment enlevé le masque.
Il y a un proverbe rwandais qui dit « On ne peut jamais tout se dire ». On arrive à la fin de ce débat sur lequel on aura encore pu aborder pas mal de points, apporter pas mal d'arguments, de points de vue. Je sais que les uns et les autres ici présents, vous avez encore beaucoup de choses à partager. Alexandra, on va commencer à conclure. Donc, je demanderai à chacun d'être vraiment bref pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de l'émission en 30-40 secondes, le mot de presque la fin.
Ok. Ben nous, ce qu'on voulait partager, c'est que justement, cette initiative de faire des interviews d'enfants et ados, ça a montré quand même le besoin de parler de cette situation. Et on a envie de continuer cette démarche. Donc déjà, proposer aux parents, amis d'enfants et d'ados qui ont envie de participer et d'interviewer, on voudrait vous donner une adresse mail. Donc c'est lesenfantsdabord@mailo.com. Lesenfants d'abord dabord@mailo.com. Et aussi vous dire qu'on avait envie de continuer cette démarche et d'aller un peu plus au-delà, donc et interviewer des lycéens déjà et des étudiants, parce que c'est aussi une jeunesse qui est concernée. Et pourquoi pas, ça c'est à discuter entre nous, moi ça m'intéresserait à titre personnel de pouvoir avoir une démarche politique, peut-être d'envoyer des extraits de témoignages à nos députés, à des élus, parce qu'effectivement, on a envie de faire parler de cette démarche. Voilà.
Et délibérément, on s'est enregistré avec les moyens du bord, parce que venir à la radio, c'était une possibilité pour avoir une meilleure qualité de son, mais il y a peut-être le risque que les enfants ne s'ouvrent pas totalement dans ces conditions-là. Gilles Fermant, pour conclure.
Donc oui, il y a besoin de débat, il y a besoin d'espace de réflexion au sein des écoles, mais même au sein de la communauté scientifique. Hein. La question de la gestion du risque, elle est pas si simple au niveau des écoles. Elle dépend de l'âge. Ça, c'est des choses différentes d'un point de vue sociologique, mais aussi biologique. Il y a des risques extrêmement différents. Chez les 6-11 ans, scientifiquement, je vois plus trop quelle est la nécessité du masque avec toutes les études qu'on a maintenant. Voilà, jamais, est-ce qu'à la télé, on a vu des débats entre deux infectiologues pour ou contre les masques chez les jeunes enfants, entre deux épidémiologistes pour savoir quelle est la part des enfants dans l'épidémie. Tous ces débats, on les voit pas. Après, juste pour souligner l'importance du travail qui est fait ici par les parents, que ce soit des parents isolés, que ce soit au sein de la fédération, de ce retour d'expérience, de cette remontée d'informations, ça, c'est reconnu, hein, comme important pour la participation de la société civile, notamment notamment par la Haute Autorité de Santé et le Conseil scientifique, je cite, qui disent que leur savoir expérientiel, construit individuellement ou collectivement, constitue une forme d'expertise recommandée et souvent admise pour améliorer la réponse sanitaire, sociale ou médico-sociale. Donc voilà, les parents qui réfléchissent là-dessus sont dans leur rôle, sont dans leurs droits, et ça, il faut l'encourager. Voilà.
Stéphanie, brièvement aussi pour terminer, le mot de la fin, même si Alexandra a déjà résumé une partie.
Moi, je voulais un petit peu encore une fois terminer sur l'avenir, parce que pour nous, c'est cette grande question qui se pose. Et donc, vraiment, avec ces questions donc sur comment on doit apprendre à nos enfants, qui seront les adultes et les citoyennes demain, à s'adapter à tout. Est-ce qu'il faut vraiment s'adapter à tout, et même à l'inacceptable? Pour moi, c'est une vraie question. Et ça pose la question aussi de la désobéissance civile aussi, qu'on croit toujours être refuser la règle. C'est pas refuser la règle, c'est vraiment à un moment donné dénoncer quelque chose, dénoncer une règle quand on croit qu'elle viole un principe supérieur. Et là, je crois que ça viole un principe supérieur.
Julie Mayande.
Et oui, moi, en conclusion, je suis quand même assez révoltée quand je constate ce manque, cette absence de dialogue entre l'éducation nationale, les instances en charge des décisions de l'éducation, et les enseignants et les parents. Et je pense qu'aujourd'hui, comme disait Bérangère, c'est à nous d'imposer ce dialogue-là, à notre manière, entre les parents, les instituteurs, les professeurs et les professionnels de santé, qui aujourd'hui, quand même, ont un constat commun. Donc voilà. Et je pense aussi que le mal-être, cette crise sanitaire ne vient que mettre en exergue un mal-être plus global du système scolaire et du système sociétal aujourd'hui.
Alors oui, vous l'aurez compris, hein, le débat d'aujourd'hui avec mes invités était un peu à charge. Hein, ils sont tous, hein, vous l'entendez, contre le port du masque en milieu scolaire. Si vous êtes pour, la porte de CFM, les micros de CFM vous sont ouverts, vous avez aussi, vous, le droit et l'opportunité de venir vous exprimer à ce micro. En tout cas, merci aux uns et aux autres, Alexandra, Stéphanie, Gilles Fermand de la Fédération des parents unis du Tarn, Julie Mayande, psychologue pour enfants et adolescents à Cortes-sur-Ciel, et Bérangère Basset, professeure de collège à Albi, qui est avec nous tout à l'heure par téléphone. Merci d'avoir participé à ce temps d'échange, et puis merci également à Sylvain et Julien qui ont compilé pour nous les paroles des enfants et adolescents du pays, des voix que nous retrouverons bientôt en intégralité sur CFM Radio. Nous avons parlé entre adultes aujourd'hui. Prochainement, ce sera donc à eux, les concernés, d'une certaine manière de s'exprimer aussi sur ce sujet. Merci à vous toutes et tous, et merci à vous de l'autre côté des câbles et à la réception des ondes d'avoir été à l'écoute. C'était mieux vaut tard que jamais sur le masque à l'école, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr.